L'ascension du Seigneur est la troisième plus grande fête de l'année, la troisième plus grande fête du Christ, après Noël et Pâques, si on les prend par ordre chronologique, ou après Pâques et Noël, par ordre d'importance. Nous le professons dans le Credo. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, c'est Noël. Il ressuscita et il monta au ciel, c'est l'ascension. Et pourtant, nous accordons relativement peu de place à cette fête, peut-être parce que nous sommes déjà l'esprit tourné vers la Pentecôte, nous sommes déjà recueillis comme les apôtres, peut-être aussi parce que nous la vivons pour beaucoup d'entre nous comme un événement douloureux de séparation. De séparation parce que Jésus est à la fois élevé au ciel, mais enlevé à ses disciples. Elle n'est pas une fête de séparation. Et la dernière phrase de l'évangile de Saint Matthieu est une promesse forte que nous devons tenir de la part de Jésus. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la finale de l'évangile de Saint Marc que nous venons d'entendre, dont vous noterez d'ailleurs qu'il fait l'impasse sur la Pentecôte, qu'il n'en parle pas, dit qu'après que Jésus fut enlevé au ciel, les disciples s'en allèrent proclamer partout l'évangile, le Seigneur travaillait avec eux. Jésus, enlevé au ciel, assis à la droite du Père, travaille avec ses disciples. Il travaille avec nous. Est-ce que c'est lui seul? Ou est-ce que c'est lui avec les uns les saints et les saints, bien sûr l'Esprit Saint, mais est-ce que c'est lui avec les saints apôtres, avec toute l'Église? Quelle est réellement la continuité entre cette vie présente et la vie future? Quelle est la perméabilité entre la terre et le ciel? Quel est le lien entre l'au-delà et la vie présente? Ce lien dont témoignent tous ceux et celles qui, ayant perdu un proche, disent recevoir, percevoir, sentir des signes de sa présence. Que les morts communiquent avec nous fait partie de notre foi, fait partie intégrante de la foi catholique, de la communion des saints et du culte des saints. Cela n'aurait aucun sens d'invoquer leur intercession s'ils n'entendaient pas nos prières. Je me souviens, dans les années 90, j'accompagnais alors assez souvent Monseigneur Guy Gaucher, qui était l'évêque auxiliaire de Lisieux, Carme, lui-même spécialiste de Sainte Thérèse, qui préparait la proclamation du doctorat de Sainte Thérèse, docteur de l'Église, qui est intervenu à Paris au moment des JMJ en 97. Et je me souviens, dans les conférences qu'il donnait, on accompagnait les reliques, il y avait une dévotion formidable, il y a toujours une dévotion aussi formidable. Je me souviens des récits qu'il faisait, avec la prudence requise, des apparitions de Sainte Thérèse depuis un siècle, en particulier auprès de non-croyants. Il y avait une histoire qui m'avait beaucoup marqué, celle d'un ministre égyptien de l'après-guerre, qui avait reproché à une religieuse de lui envoyer une de ses sœurs pour obtenir gain de cause dans une affaire difficile. La religieuse ne comprenait pas, et puis, prise d'une inspiration subite, elle sort de sa poche une petite image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, décédée 30 ou 50 ans plus tôt. Et l'autre dit: « Voyez bien que vous la connaissez, alors dites-lui qu'elle arrête de venir me voir. » Toute la question est de savoir si cette communication est réservé aux saints et aux saintes qui sont dans la gloire du ciel. Et ce serait alors très rassurant quand on a la manifestation d'un proche. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une propriété plus générale de l'âme humaine? Est-ce qu'un signe, presque tangible parfois, est-ce qu'un signe, une apparition, une parole, quelque chose un signe de la part d'un défunt, dit quelque chose de son salut. La tradition de l'Église dit que cela dépend moins du signe en lui-même que du contexte, des circonstances, et surtout de l'effet qui est produit, de l'effet. Est-ce que cela nous met dans la paix? Est-ce que c'est un soulagement? Ou au contraire, est-ce que cela est douloureux? Le saint Padre Pio, à qui une veuve se plaignait, elle souffrait. Elle souffrait d'apparition de son mari défunt depuis des années. Elle était allée le voir. Padre Pio lui avait expliqué que ce qui était le plus probable, c'est que son mari réclamait ses prières. Qu'il était dans ce qu'on appelle le purgatoire, en cours de purification, et qu'il avait besoin de ses prières. Même si le décès remontait des années, une dizaine d'années plus tôt. Et c'est ce qu'elle a fait. Et quelques temps plus tard, Padre Pio, qui la recroise, lui dit « Tes prières ont été exaucées. Ne t'arrête pas de prier. » Mais elles ont été exaucées, ton mari est dans la paix. Il y a les saints et les saintes, il y a les âmes du purgatoire, et puis on est forcé quand même de considérer ce dont il est question dans l'Évangile, lorsque Jésus dit « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et les âmes qui vont à la damnation, les âmes des pires de nos contemporains, ou même dans l'histoire, est-ce qu'ils sont susceptibles de continuer à faire du mal? Est-ce que cela se passe un peu comme, les jeunes le savent bien, tous ces films d'horreur et de zombies? Vous avez vu la multiplication, la profusion? Voilà, pour le coup, des films qui méritent bien leur nom, des films d'horreur. Mais est-ce là une pure fiction? Est-ce là de la pure invention, pour autant qu'une pure invention de la raison humaine soit possible? Ou est-ce que cela correspond, ou est-ce que cela donne une petite part de vérité? Est-ce qu'il y a quelque chose, une indication quelconque qui peut être donnée? Oui, nous le croyons, oui, il y a des âmes qui continuent à faire du mal après leur mort physique. Des âmes de ceux qui ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ont été refusés, ils ne veulent pas de l'amour, ils ne veulent pas du ciel, et qui continuent de rôder sur la terre avant de plonger définitivement dans l'abîme de l'enfer. Il est très remarquable que la mission que Jésus confie à ses apôtres, que nous venons d'entendre dans l'évangile de saint Marc, porte d'une certaine façon sur ce qu'on pourrait appeler cette zone grise. Ce no man's land des esprits, ce passage entre la vie présente et l'au-delà. Voyez qu'il s'agisse d'expulser les démons, de parler en langue nouvelle, de prendre des serpents dans ses mains ou de boire sans dommage du poison mortel, ou bien encore de donner par l'imposition des mains une force au malade. Il faut comprendre que dans l'Écriture, le malade signifie qu'il est en danger de mort. C'est ça que ça veut dire du temps de Jésus et dans la Bible. Et c'est à ça que correspond d'ailleurs le sacrement des malades, dont le catéchisme dit qu'il est réservé aux personnes dangereusement malades, en danger de mort. Mes amis, il n'y a pas que la planète qui soit en danger de mort. Comme nous alerte à raison tous ceux qui en ont une vision honnête. Ou plutôt, notre planète, la Terre, n'est en danger de mort que parce que l'humanité est en train de perdre son âme dans un matérialisme, on va dire effréné, inconscient, dans le refus du salut. On aurait pu espérer que la crise que nous vivons, que la pandémie réveille au moins les consciences, suscite un désir de conversion. Et voyez, quelle est la hâte de nos contemporains? C'est de retrouver le monde d'avant. Notre mission, toujours actuelle, toujours la même, n'en est que plus urgente d'appeler à la suite du Christ à la conversion. la conversion pour empêcher tant d'âmes de courir à l'abîme. Peut-être, et c'est la raison pour laquelle l'Église insiste si fortement sur la question écologique, peut-être qu'en prenant conscience de la gravité de la pollution matérielle, ils comprendront le danger de mort spirituelle. En réalité, l'inverse est plus sûr. Quiconque a vraiment pris conscience de ses péchés, ou plutôt quiconque a vraiment pris conscience de la pureté infinie de Dieu, de son amour absolu, souffre forcément de toutes les atteintes, même les plus négligeables à la création. L'écologie, quand elle est cohérente, elle est d'abord spirituelle. Seigneur, toi qui nous as ouvert le ciel par ton ascension, ouvre nos cœurs à ton amour pour que nous cherchions jour après jour notre conversion pour nous rapprocher de toi, pour que nous obtenions le salut et celui de nos frères. Oui, il nous faut croire que Jésus est au ciel avec notre humanité pour sauver la création.